Interview.
2 jours.
Salut Jungle Babou.
Salut Baptiste, comment vas-tu?
Très bien, merci. Sur RDWA 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. On va passer un petit moment ensemble pour parler beatbox. À l'occasion notamment d'une série de stages que tu vas proposer pour s'initier à la pratique du beatbox.
Oui, absolument. Oui. Donc je propose des stages à Lucandiwa pour le week-end de la Toussaint du 27 au 28 octobre. C'est des stages pour adultes à partir de 12 ans et aussi pour les petits à partir de 7 ans. Ça se passe à l'ancienne salle du cinéma en face de la boulangerie à Lucandiwa.
Ah, très belle salle en plus.
Ouais, carrément, avec un petit cachet et tout ça, quoi. Et donc du coup, je vais proposer 3 heures le samedi et 3 heures le dimanche, donc ce qui nous fait 6 heures de beatbox, avec une possibilité de faire une petite restitution d'atelier à la fin. Donc petite chorale de beatbox quoi. Et pour les plus petits, c'est de 11h à midi, le même jour, le samedi et le dimanche. Voilà, donc il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les âges.
J'invite les auditrices, les auditeurs à plonger dans les archives de RDWA puisqu'elles sont toujours présentes. On a déjà pu t'avoir ici à l'antenne. Mais si en 2 mots, tu rappelais un petit peu ton parcours avec cette discipline.
Ouais. Moi j'avais préparé même une petite fiche là pour un peu expliquer aux gens novices du beatbox qui savent pas ce que c'est.
Ah.
Donc déjà une définition du terme human beatbox, j'avais vraiment envie de vous le présenter à la radio. Donc il s'agit d'une pratique musicale basée sur les multivocalismes qui consiste à produire une orchestration complexe à l'aide de son seul appareil phonatoire. Donc ça c'est une description que j'aime bien dire. Et puis après, sur l'historique du beatbox, ça veut dire boîte à rythme en anglais, quoi. Donc créer de la musique avec sa bouche, son nez, sa gorge, son corps, comme une percussion vocale, en fait. Et cette pratique universelle, on va dire, par excellence, qui s'appelle le human beatbox, rejoint les grandes traditions des musiques vocales, s'inspirant des chants ethniques ancestraux, du scat, des jazzman, des tablas vocales indiens et d'autres diversités, polyphonie vocale. Mais le nom human beatbox s'impose avec au début des années 90 à New York avec la culture hip-hop. Voilà.
Ouais, voilà, parce que ça a été vraiment ce qui a remplacé la boîte à rythme
facilement.
Alors, on précise, c'est vraiment effectivement tout le corps. Tu parlais de la voix surtout, parce qu'on va pas taper sur son corps pour faire du beat.
Alors on peut, ça s'appelle la body percussion.
Ouais, ouais.
Et d'ailleurs j'aborde un petit peu ce chapitre-là dans les stages. Le but en fait vraiment c'est de transformer son corps en instrument de musique. Donc ce que tu viens de dire c'est la body percussion et c'est vraiment cousin avec le beatbox. Donc on peut faire ça, par exemple les Brésiliens il y en a qui tapent aussi sur les joues. Ça, on peut le relier au beatbox, en fait, tout simplement, quoi. Donc après, le but, c'est vraiment d'utiliser son corps comme un instrument, quoi.
Il y a des dialectes qui sont particulièrement compliqués, qui sonnent en intérieur avec beaucoup d'onomatopées. Est-ce que tu les connais? Tu as étudié ça? Est-ce que c'est quelque chose qui permet de faire à la fois chanter le ventre en même temps qu'il y a des sons qui sortent par la bouche?
Oui, bien sûr. Ouais. Après, on va aborder un peu plus loin. Là. C'est les partitions de beatbox, en fait, en onomatopée, sous forme de grilles rythmiques.
Ah ouais, il y a carrément des grilles
qui ont été créées. Ouais. En fait, on s'est rassemblés avec plusieurs beatboxers et on a essayé de mettre en place un système de notation symbolisé. Donc, avec les gens qui avaient des notions de solfège, donc qui ont fait des écoles de conservatoire et puis des novices comme moi. Et on a essayé de se mettre d'accord en fait sur un terme qui nous rassemble tous ensemble. Donc,
mais c'était quand ça? T'as participé à ça toi?
Ouais. Alors,
excellent.
Ce qui s'est passé, c'est que en fait, bref historique de ma bio. Moi, je commence le beatbox en 2004. En 2006, je rencontre un gars qui s'appelle Ezra qui organise les premiers championnats de France de human beatbox à Angers. Et là, on se retrouve. Il n'y avait pas la culture YouTube et tout ça, donc on se retrouve en fait avec 60 beatboxeurs de la France entière. Qui beatbox comme des fous quoi. Et il y en a quelques-uns qui avaient déjà des dossiers pédagogiques quoi, avec des propositions de grilles de rythmique et puis de marquer le beatbox en fait. Et donc du coup en fait en 2008 moi à Grenoble je fais une rencontre avec la Chaufferie, donc qui est une salle assez connue, une salle nationale, où il y a un projet qui se passe sur la rencontre en fait entre les professeurs de musique, les beatboxers, et se mettre en place en fait sur un outil pédagogique commun. Et donc ça a été vachement riche comme rencontre, parce que ça nous a permis en fait, en tant que beatboxer et puis musicien intervenant, de se rendre compte de la légitimité du beatbox par rapport aux autres professeurs de musique. Et au niveau de cette légitimité, ben, on devait en fait avoir...
produire un matériel, quoi.
Voilà, c'est exactement, ouais, avoir un inventaire des sons et produire un matériel pour pouvoir le présenter, quoi.
Et ça n'avait pas été fait ailleurs, je veux dire aux États-Unis par exemple, et tout ça, cette réflexion là n'était pas arrivée non plus.
Pas sur le côté pédagogique, parce qu'aux États-Unis en fait, ce qui s'est passé, c'est que on va partir sur les quatre grosses générations de beatboxers. Donc il y a la base, les pionniers, avec Dougie Fresh, les Fat Boy, Biz Markies, qui ont vraiment en fait marqué la discipline en l'inventant, quoi. Et en faisant en fait la rythmique et la mélodie en même temps. Donc ils ont posé vraiment les premières bases. Après, dans les années 90, t'as Razel Kenny Mohamed qui ont poussé en fait encore plus loin et qui ont donné les lettres de noblesse au beatbox. Et notamment la caisse claire inspirée de Razel, en fait, Kenny Mohamed qui fait. Donc c'est une caisse claire en fait qu'on avale.
Qui permet de respirer.
Exactement. Et donc Razel, en fait, il n'avait pas trop cette technique-là. Lui, il le faisait de temps en temps pour avoir des trous de respiration. Mais Kenny Mohamed, il le faisait tout le temps, en fait. Et ça, en fait, ça a influencé toute la génération des années 2000, dont je suis issu, où il y a eu la première convention internationale à Londres en 2003. Donc ça a été vraiment le premier rassemblement officiel de beatboxers, quoi. Et suite à ça, on a eu des propositions, justement, pédagogiques et notamment au niveau du renouveau européen, ce qu'on a appelé, avec le Science Super Crew.
Ah ouais.
Voilà, que tu as vu et qu'on a tous vu à l'époque, quoi. Killa Kella aussi.
Sally Johnson, d'ailleurs, continue tout à dans fait. Cette profession.
Tout à fait. Maintenant, c'est un chanteur de soul très, très fort aussi.
Ouais,
quoi.
Aussi, ouais,
laisse tomber, quoi. Il explose les barrières, ce gars, quoi. Et tu as Bilo, qui est un Allemand, en fait, activiste du mouvement hip-hop, qui a créé des premiers championnats, le premier championnat du monde en 2005. Et suite à ça, en fait, il y a eu une émulation de tous les beatboxers européens qui se rassemblaient plusieurs fois par an, que ce soit pour les championnats nationaux, internationaux, etc. Et suite à ça, il y a eu beaucoup d'échanges au niveau de la pédagogie et aussi au niveau de la pratique pure du beatbox, quoi.
Voilà. Et du coup, vous allez mettre au point une méthode, finalement.
Alors,
elle est mise au point
Oui, elle est mise au point, mais de manière fragmentée, en fait. Parce que c'est très difficile de rassembler, on va dire. Il y en a de plus en plus des beatboxers, donc à l'époque, il y en avait déjà pas mal. Et donc, en fait, on a tous travaillé un peu chacun de son côté, quoi. Et moi, notamment à Bruxelles, avec des acteurs du beatbox comme Gaspard Herblot, des gens qui sont très connus dans le milieu théâtral, et puis dans le cirque, et puis aussi dans la pédagogie, quoi, tout simplement. Et on s'est mis d'accord, en tout cas, pour faire un inventaire des sons assez classique, donc grosse caisse, caisse claire, charlée. Donc à part de ça, on est à peu près tous d'accord sur l'onomatopée. Grosse caisse, c'est le B, la caisse claire, c'est le K, et le charlée, c'est le T. Donc là-dessus, on est tombé plus ou moins d'accord. Après, il y en a qui ont poussé en fait la technique plus loin en prenant en fait les partitions rythmiques de batteurs et en les adaptant au beatbox. Mais ça, il faut avoir des grosses notions de solfège, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, quoi. Donc du coup, moi, je préfère rester sur un truc assez simple et accessible sur les onomatopées, parce que au début, faut savoir que le beatbox, c'est une tradition orale comme en Afrique. Et que si on commence à mettre trop d'écriture, etc., ça peut faire une barrière pour les gens qui sont novices, quoi. Mais en même temps, c'est très intéressant. Donc il y a deux vagues, en fait, qui commencent à émerger, avec un système de notation plus complexe, donc qui est carrément inspiré du solfège rythmique, et une notation plus intuitive, on va dire, qui est plus basée sur l'onomatopée, et puis du coup aussi à inventer des symboles pour des sons, parce que c'est ça qui est compliqué. Au fur et à mesure qu'on pratique notre art, on se rend compte qu'on découvre des nouveaux sons et qu'il faut après ajuster la hauteur, ajuster le timbre, et ça en écriture c'est pas évident.
Je veux dire, déjà même sur une batterie, il peut y avoir 15 cymbales différentes, alors en beatbox j'imagine que tu peux en produire encore plus.
Oui. Et puis chaque année il y en a des nouvelles qui sont inventées, quoi, tu vois.
Alors du coup, comment on va l'écrire? Ça va être la TS1.
Ouais. Non, mais là-dessus, on est encore en réflexion, hein, c'est sûr. Hein, on est dans le balbutiement du truc. Et après, au fur et à mesure. Mais il y a aussi une évolution par rapport aux musiciens et aux beatboxers particulièrement. Même on voit au niveau des rappeurs aujourd'hui, les rappeurs chantent, ils s'ouvrent à la musicalité. Alors qu'avant, c'était un beat, une boîte à rythme. Le beatbox, c'est pareil.
Et un phrasé.
Et un phrasé, hein, ouais, le flow et tout ça, quoi. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a des petits gars qui sortent de conservatoire et qui commencent à tâtonner le beatbox et qui commencent à faire des ponts, en fait, entre tout ça. Et ça nous amène vers quelque chose de beaucoup plus complexe que c'était à la base.
Donc si on devait revenir à toi, ta méthode, du coup c'est laquelle? Qu'est-ce que tu vas mixer? Donc un petit peu voilà 3-4 onomatopées qui celles-ci sont universelles avec beaucoup d'oralité finalement.
Oui, tout à fait. Moi, c'est la transmission, elle est vachement orale. Après, je
Donc tu
m'appuie.
proposes un son et puis les gens essaient de le reproduire, comment?
Alors moi, je propose en fait des techniques, parce que chacun a son son, chacun a sa langue, chacun a ses dents, enfin voilà quoi, tu vois, on a une cavité, un appareil phonatoire qui est vraiment propre à nous-mêmes. Donc du coup, moi, si je te donne une technique, bah, tu vas peut-être pas la sortir de la même manière que la mienne. Et je peux même être surpris en fait de la manière dont tu la sors, avec ton originalité et ta musicalité. Donc moi, c'est vraiment des techniques que je donne, et puis après, c'est à la personne de s'approprier la technique. Et si jamais il trouve par une autre technique qui fait un autre son, et ben moi je suis très curieux de savoir comment il le fait. Et c'est là où on est en échange en fait. Même s'il connaît pas du tout le beatbox, il a une affinité qui fait qu'il sort un son que moi j'ai jamais entendu de sa bouche quoi. Et c'est
J'allais te demander du coup pourquoi tu donnes des cours, c'est peut-être aussi pour ça, pour en apprendre tous les jours.
bien sûr, bien
Ouais.
sûr.
Ouais.
Bah c'est ça peut s'étaler à tous les domaines de la vie en fait, hein, tout simplement. Quand tu penses donner sans que la personne puisse te donner, c'est que tu es déjà dans un système de supériorité. Et moi, c'est pas du tout mon but. Mon but, c'est vraiment de créer quelque chose dans une conversation musicale ou autre. Et le fait que je t'amène un truc, tu m'amènes un autre truc. Et donc, on partage un moment qui n'appartient ni à moi, ni aux participants. Ça appartient à l'instant, quoi. Et c'est pour ça que je fais des séances d'improvisation aussi dans les ateliers, qui sont très intéressantes parce que je donne un cadre, mais dans ce cadre, les gens font vraiment ce qu'ils ont envie de faire, quoi.
Est-ce qu'on doit être forcément dans une rythmique hip-hop
Ah,
dans le
pas du tout. Non,
beatbox?
non, non, non,
Ouais,
non, non,
ouais,
non.
ouais.
Non, non, non.
Parce que ça quand même, ça rappelle toujours un peu
Ouais, je suis
ça.
d'accord.
Ou bon, la drum and bass, ou
Ouais,
enfin
ouais,
bon,
ouais,
un
ouais.
son électronique, quoi.
Ouais. Ben, on en revient aux quatre générations de beatboxers, hein, de toute façon. Hein, parce que donc la base, c'était le hip-hop. C'est clair, parce que ça vient de cette culture, etc. La deuxième génération, on reste quand même dans le hip-hop avec Razel et Kenny Mohamed, même si, comme tu dis, ils partent un peu vers la drum and bass. Les années 2000, il y a des grosses influences techno avec bah, la culture européenne, en fait, de la musique. Mais maintenant, on arrive à la quatrième génération, qui est la génération 2010. Et là, j'aime bien appeler cette génération beatbox 3D. Parce qu'en fait, ils proposent en fait des sons. Qui sont beaucoup plus spatialisés en fait. Donc quand tu fermes les yeux, tu as vraiment l'impression que c'est plusieurs machines, c'est pas qu'une seule machine. Tu sors pas juste la mélodie avec le beat comme il a pu le faire Razel dans les années 90. Là, tu sors des milliards de sons, que ce soit des sons phrasés, des sons soufflés, des sons avec le nez, des sons percussifs. Et tout ça mélangé, quoi. Donc là, on en arrive vraiment à un niveau où ça dépasse tout l'entendement d'un seul style de musique, en fait.
D'ailleurs, il y a plusieurs techniques en fait. Quand on se beatbox, on pourrait se sampler comme ça et donc effectivement produire plein de sons en fait sur le même morceau. Donc une production que j'allais dire plutôt studio. Mais là, tu parles de gens qui arrivent à faire 3, 4, 5, 10 sons en même temps?
Alors ça c'est faux ça c'est en fait on croit ça, c'est
Ah,
l'illusion qu'ils nous donnent.
ouais.
Mais comme c'est scaté, si tu veux, que regarde, quand je fais par exemple, on voit bien que je fais qu'un seul son, enfin plusieurs sons, mais les uns derrière les autres. Mais si je l'accélère, on a l'impression qu'il y a plusieurs sons. Et c'est pareil en fait avec les sons du nez et de la bouche. Et ben en fait, je dissocie tout simplement le son nasal du nez où je fais une mélodie et avec le son en apnée de la bouche où je fais une petite rythmique. Mais je fais pas deux sons en même temps. Je dissocie en fait les deux canaux qui sont là. Et donc en fait, le beatbox, c'est vraiment l'illusion. C'est le magicien en fait, en quelque sorte, quoi. Et c'est pour ça que c'est très intrigant.
Et quand tu parlais de spatialisation, en fait, c'est quoi alors du coup?
Alors ça, c'est la nouvelle génération, c'est-à-dire que quand je parle de beatbox 3D, c'est-à-dire que y a toutes les techniques se mélangent. Alors qu'avant, il y avait vraiment des techniques à part entière et c'était assez cloisonné entre chaque technique. Maintenant, en fait, ils ont pété toutes les cloisons et donc ça veut dire que tu peux autant faire un truc très très musical et puis après retourner sur de la bass music et puis après retourner sur un truc très rythmique et tout ça dans un temps très réduit. Et donc c'est pour ça que moi je parle de 3D, c'est-à-dire que tu sais plus où donner de la tête, quoi. C'est tout autour de toi, c'est derrière, c'est au-dessus, c'est en bas, c'est à gauche, c'est à droite. Et là justement, l'illusion de faire plusieurs sons en même temps est encore plus fort, quoi. Alors que c'est vraiment des techniques de placement avant, après, et tout ça donne l'illusion en fait qu'il y a 15 15 bonhommes sur scène, quoi.
Et des samples, et en fait, non.
Et non. Mmh. Et ça, on parle pas de la machine, hein, on parle juste de la voix, quoi. Ouais. On parle pas de la Loop Station, quoi. C'est assez hallucinant, quoi, vraiment, quoi.
Bon, des stages de beatbox, alors, vous sont proposés par Jungle Babou. T'as fait des albums, t'as fait du son, toi aussi, que t'as produit, qui a été disponible, des concerts, même.
Ouais. Ben, j'ai commencé à mettre mon son sur SoundCloud, tout simplement. Après, un petit peu sur YouTube, et etc.
Alors, comment tu produis ?
Alors, moi, je produis avec la Loop Station. Moi, je suis très analogique. J'ai pas d'ordinateur, j'ai pas d'interface, tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'enregistre directement avec ma machine. Et au cul de ma machine, je mets un zoom enregistreur. Et à partir de là, mon but, en fait, c'est vraiment de restituer l'énergie que je peux faire sur scène. Donc, c'est pas trop un travail de studio. Parce que j'ai pas trop l'énergie et l'envie de le faire. Après, selon les rencontres, je pourrais le faire, hein, bien sûr. Hein.
Oui, mais n'hésitez pas à proposer une session.
Carrément.
Toi-même qui nous écoutes, producteur, productrice, peut-être.
Mais c'est deux travails différents, vraiment, quoi. Et donc, du coup, moi, j'ai sorti pas mal de sons. J'ai fait un premier album en 2014 qui s'appelle Supa Supa. Avec donc 12 morceaux qui sont enregistrés avec la Loop Station que j'ai mis sur SoundCloud. Et puis, au fur et à mesure, pour les gens qui sont intéressés par me programmer, je les renvoie directement sur SoundCloud pour qu'ils aient une idée précise de l'énergie que ça peut donner sur scène, quoi. Mmh. Après, je n'ai pas vraiment fait les traitements en studio, etc. Ce qui peut être très intéressant, mais c'est vraiment un autre travail pour l'instant qui n'est pas dans mes priorités, quoi. Mmh.
Ta priorité, c'est donc la pédagogie, en fait.
Non, j'ai pas de priorité.
Ah.
Ma priorité, c'est de me faire plaisir dans un premier temps et de transmettre. Effectivement, je suis d'accord parce que c'est super intéressant de transmettre. Mais c'est surtout les rencontres, ma priorité, les rencontres avec moi-même, avec ma propre musicalité et les rencontres avec les autres aussi. Et donc, du coup, c'est très variable selon les mois de l'année. Des fois, je fais pas de musique pendant 6 mois. Des fois, je fais de la musique au taquet pendant 4 mois. Toute ma famille en peut plus. Et puis voilà, c'est aléatoire en fait, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une illusion au niveau de carrière du musicien, surtout dans des endroits comme ici, même en ville d'ailleurs, où on s'enferme en fait dans un fantasme de réussir, et finalement à la fin on est très frustré et on vit pas assez sa musique. Et donc du coup, moi j'ai vraiment pris le parti pris d'avoir un petit boulot à côté et de pas fantasmer sur le fait de toujours remplir mon frigo avec cette pratique là, quoi. Et ça m'a vachement allégé, et au niveau de la créativité aussi, et au niveau du temps disponible, et puis du temps que j'accorde aussi à l'instrument qui est ma voix. Et voilà, et maintenant même j'apprends la guitare, tu vois, pour te dire que je pars vers d'autres horizons aussi, quoi.
Et puis du coup, ça donne du temps pour transmettre. Là, tu parlais de ta voix, alors ça s'entretient, il faut que tu bosses tous les jours un peu.
Ouais, t'es verveine tous les matins, pas de clope.
J'y crois pas.
Non, pas du tout. Non, je sais bien, ouais. Idéalement, c'est ça qu'il faudrait faire.
Je parlais même de technique, tu vois. Est-ce que tu skates un peu tous les jours ou pas? Enfin, des trucs comme ça? Non, pas forcément.
Pas forcément. Ça vient vraiment comme ça vient. Donc, il y a un endroit de prédilection, c'est la douche. Parce que forcément, là, c'est un endroit d'intimité où t'es face à toi-même et puis tu te fais du bien, enfin, tout simplement, quoi. Et donc là, des fois, t'as des techniques qui sortent et puis des nouveaux sons qui sortent, en fait. Mais c'est vachement en regardant évidemment des vidéos sur YouTube avec le fameux gars que je disais, Bilo, là, qui a créé les championnats, que tu te permets de savoir un peu les techniques, tu t'échanges, les machins. Donc ça t'aide vachement au niveau de la créativité, quoi. Et puis après, ça vient vraiment, je sais pas comment dire, quoi. Ça vient des fois, mon cerveau il fait un déclic et puis je sors un son, je dis mais putain, mais il est bon, quoi, et je vais le bosser. Et puis après je vais faire un fanatique à bosser ce son pendant 3-4 jours, quoi, et pour en sortir un bon truc. Et puis après, des fois je le laisse, je reviens, enfin voilà, c'est très aléatoire tout ça, quoi.
Ouais. Et donc pas d'entraînement, bon, c'est ça qui est cool avec le beatbox, alors.
Si, il y a de l'entraînement. Non, mais c'est pas ce que je... non, bien sûr, faut s'entraîner, évidemment. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Je suis passé par des phases de dépression parce que j'avançais pas. Mais vous inquiétez pas, les gens qui commencent le beatbox, c'est toujours comme ça, quoi. Au début, on monte, puis après, on stagne. Voilà, c'est normal, ça. Mais après, c'est surtout l'envie, en fait. L'envie qui fait évoluer, quoi. L'envie de se dire qu'on est capable de faire du son. Et puis, ça résonne aussi dans tout le corps. Donc, ça crée des sensations très, 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 très intéressantes, très stimulantes.
Jungle Babou dans le studio de RDWA. Depuis bientôt 20 minutes, on va t'écouter faire quelque chose. Ouais, okay. du live.
Avec plaisir.
Il y a tout le matos ici. Qu'est-ce que tu nous joues en fait ?
Alors je vais jouer un premier morceau et puis on en jouera un deuxième peut-être à la fin.
Allez.
Donc là on va jouer un premier morceau qui est très orienté sur du reggae. Donc l'imitation un peu de la guitare, enfin c'est tout à la voix, hein. Il n'y a absolument aucun instrument, Baptiste peut en témoigner. Et donc du coup j'utilise une LoudStation qui me permet de superposer les sons et donc de balancer les lignes de basse, de rythmique au fur et à mesure. Voilà, la chanson, c'est... J'ai pas trouvé de nom pour l'instant, mais c'est pas grave, c'est une chanson reggae proposée par Jungle Babu.
Jungle Babu sur Erdua. Et dis donc, je sais pas si c'est l'analogique, mais en tout cas, moi, tout le monde le sait, j'aime la basse, mais elle était bien, elle était grasse.
Merci.
On aurait dit une vraie, tu
yes.
vois, par exemple.
Alors, du coup, là, je vais quand même dire quelque chose parce que je suis pas un mytho. Sur la LoudStation, il y a un effet basse. Donc, c'est pas tout à fait avec la voix. Il y a un traitement, en fait. La LoudStation, ce qui est formidable avec celle-ci, la RC-505, c'est qu'en fait, tu peux traiter des sons avec des systèmes d'effets dedans, ce que tu ne pouvais pas faire avant, quoi. Donc, en fait, tu as le flanger, tu as un effet basse, tu as des échos, tu as des reverbs, tu as plein de trucs, quoi.
Le delay,
voilà.
Du coup, tu peux dubber ton morceau reggae.
Ouais, exactement, je peux dubber mon morceau reggae, quoi. Et plein de trucs, électro, enfin, tout ce que tu veux, quoi. Vraiment, c'est... Il y a même un compresseur qui me permet d'avoir une voix un peu plus sympa. Enfin, t'as plein de trucs, quoi.
Est-ce que tu te vocodes toi aussi?
Non. Non. Non, non, je j'assume pas
le truc pour
l'instant.
Pour chanter ouais. Juste alors que c'est faux.
C'est ça. la autotune, pour l'instant, j'arrive pas vraiment encore. Après, j'ai vu. Tu sais, ça fait quand même.
C'est un son qui t'intéresse, pardon. Je vais pour bloquer là-dessus.
Ouais, mais
quand
même. En fait, je trouve que ça évolue avec le temps. Mmh. Au début, je crachais dessus de manière violente et virulente, quoi. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a quelques artistes qui savent commencer à l'utiliser, quoi. C'est comme la trappe, en fait.
Il y en a trop, il y en a trop partout.
On est d'accord, il y en a trop partout. Mais aujourd'hui, j'ai découvert quelques artistes qui arrivent à ne pas avoir la main lourde avec. C'est-à-dire qu'ils l'utilisent à des moments précis comme des traitements de son. Et j'ai trouvé que c'était...
Comme un surcœur ou un
voilà,
comme ça.
C'est ça.
Ouais, c'est,
ouais, c'est ça. Mais moi, je ne sais pas du tout l'utiliser avec cette finesse-là, tu vois. Donc, et puis, pour moi, franchement, le vocodeur, c'est Zapp & Rogers, quoi. C'est en fait le funk psychédélique de Los Angeles que Dr. Dre et Snoop Dogg, ils n'ont pas arrêté de sampler. Et ça vient de là, en fait. C'est un mec, en fait, qui avait un tuyau dans la bouche et qui faisait de la guitare. Et sur sa guitare, bah, du coup, ça faisait des effets de ouf, quoi, tu vois. Et maintenant, on l'a tous utilisé et c'est devenu n'importe quoi. Donc, ça, c'est mon. T'as vu, je suis un peu vénère. Hein.
Ouais, mais j'ai bien lancé les gens sur le vocodeur. Mais c'est, je dois le dire, un son qui m'énerve et qui commence à énerver vraiment un paquet de gens, en fait, finalement.
Ouais.
Parce qu'il est un peu là tout le temps et c'est pas gage forcément de qualité non plus.
Non. Mais ça peut l'être dans certaines formations. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été surpris comment on peut l'utiliser, quoi. Parce que bah, c'est comme tout, en fait. Si tu sais utiliser la technologie, dans ce cas-là, tu vois, pourquoi moi j'ai ça, je pourrais le faire sans la voix. Tu vois, finalement, un vocodeur ou un autotune, ça peut être comme un autre effet si tu l'utilises pas uniquement pour corriger la voix. Mm-hmm. Tu vois.
Ceci dit, le fait d'utiliser ce type de technique-là permet la construction d'un morceau qu'on pourrait dire fini.
Oui.
Là où, quand tu parlais par exemple des championnats du monde de beatbox, eh ben, ouais. C'est plutôt de l'enchaînement de techniques, c'est des morceaux qui sont très courts, où on va passer par différentes ambiances. C'est pas tellement des choses sur lesquelles on pourrait, par exemple, danser en concert, quoi.
Si. Alors maintenant, ce qui se passe depuis 5-6 ans, en fait, c'est qu'ils ont ajouté au championnat, en fait, une section loop station. Donc en fait, il y a une émulation de ouf, même par rapport au public. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de musicalité avec la loop station.
Ah ben voilà, enfin, ouais, du coup, on sait voilà. Un concert, quoi. C'est
donc,
plus une démo.
Si, mais ça reste un battle, en fait. Donc au lieu que ça soit un passage d'une minute, 1 minute 30 chacun, c'est un passage de 3 minutes. Et en fait, c'est deux mecs derrière la loop station qui s'affrontent, quoi. Ils ont deux passages de 3 minutes. Sauf qu'on arrive vers un truc qui ressemble vachement plus à de la bass music ou je sais pas comment.
Ouais. Faut faire danser le public.
Voilà, exactement. Ouais. Et ça donne la chair. Tu vois, quand je t'en parle, j'ai la chair de poule.
C'est vrai.
C'est ouf, hein.
Ouais, c'est ouf.
C'est parce qu'en fait, quand t'écoutes vraiment ces mecs-là, tu sens que c'est de la musicalité de ouf. Il y a des gars qui sortent du conservatoire. T'as des gars qui ont une connaissance de la musique et du coup, ils savent chanter. Ils savent imiter tous les instruments, ils savent faire... Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que c'est jugé sur l'originalité, la qualité des sons, l'interactivité avec le public et la technique. Les juges, en fait, ils ont ces 4 critères-là, quoi. Et donc, la loop station, ce qui est vachement important, ce qui est intéressant, du coup, c'est que ça explose toutes les barrières et on arrive vers un truc beaucoup plus musical. Et moi, je te balance des gros roulements d'enculés et puis, au bout d'un moment, j'ai les oreilles qui saignent, quoi, en fait. Tu vois, c'était pas... C'était pas à fond dans le beatbox, c'était ça le problème au niveau des championnats, quoi. Alors que maintenant, je vois des gens qui sont intéressés, qui sont pas du tout du milieu beatbox, qui sont intéressés par ces compétitions de loop station, parce que ça propose vraiment autre chose, une musicalité et un truc plus profond, quoi. Même spirituel, j'ai envie de dire, quoi. Parce qu'on part sur des mélodies, des harmonies, tu vois. On passe au-dessus, on fait des voix, on place des voix au-dessus. Enfin, tu vois, ça crée vraiment quelque chose de fort, en fait. Que tu n'avais pas vraiment dans le beatbox pur sans loop station, quoi.
Ah, c'était un peu quand même rigide, j'allais dire.
Ouais. Très,
rigide et technique.
Très virtuose, quoi.
Alors, ça fait plusieurs fois que tu parles de la possibilité de ne pas avoir de connaissances musicales, hein, d'où le sens de produire une méthode qui permette de rendre cet art accessible à tous.
Ouais.
Mais en même temps, tu cites aussi des gens qui maintenant viennent des conservatoires, ont une haute technique musicale par ailleurs. Du coup, toi, ton niveau là-dedans, d'où tu viens sur la musique, est-ce qu'il ne faut quand même pas avoir un peu une certaine connaissance musicale ou un intérêt pour la musique pour à un moment donné être un beatboxer crédible, j'allais dire?
Alors, tout dépend par ce qu'on entend par crédible. Moi, je dirais plutôt qu'il faut avoir un intérêt, pas un niveau. Parce que
un intérêt à la musique.
Exactement.
Je veux dire, faut avoir écouté de la batterie, même du jazz ou n'importe quoi, enfin pour s'inspirer.
Il faut être intéressé en fait, tout simplement. Je sais pas s'il faut avoir fait de la batterie ou écouter du jazz, mais ou savoir les beatboxers, machin, voir les vidéos et tout. Et franchement, je ne pense pas. Parce que la musique, pour moi, elle m'appartient pas, quoi. Tu vois, ce que je fais, ça m'appartient pas. Moi, je suis novice, j'ai fait aucun conservatoire. Je suis beatboxer parce que ça fait 15 ans que je fais ça et que j'ai rencontré plein de monde de ce milieu-là.
Mais pourquoi t'en as fait, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui t'a pris de... Non, mais...
Qu'est-ce qui m'a pris ? Bah, l'engouement, tout simplement.
T'as rencontré les gens qui en fait, qui
exactement.
En faisaient, tu t'es dit, c'est cool, faut que je vais faire pareil, quoi.
Bah ouais, parce que moi, j'avais pas d'affinité avec les instruments de musique, tu vois.
Mais bon, t'en écoutes quand même de la musique.
Ah ouais, j'écoute blindé de musique, ouais, bien sûr.
Ça. Et avant ça ?
Ouais, mais sauf qu'en fait, avant, tu vois, le beatbox, maintenant, mon spectre musical est beaucoup plus large qu'avant. Avant, je me cantonnais au hip-hop et au beatbox, le beatbox et le hip-hop, parce que c'est quelque chose qui me rappelle mon passé, que ça me rassure, tu vois, c'est assez émotionnel, en fait, tout ça, quoi. Et au bout d'un moment, quand je dis, mais non, mais en fait, je suis pas musicien, je suis pas beatboxer, je suis pas rappeur, je suis juste quelqu'un qui kiffe la musique, quoi, tu vois. Et donc, quand j'ai pris conscience de ça, du coup, je me suis ouvert à plein de choses. Maintenant, comme je te disais, j'apprends la guitare, j'ai machin, bidule et tout, alors qu'avant, je me cloisonnais, quoi. Beatboxer et tout, avec une espèce d'attitude et tout. Alors après, moi, c'est mon chemin personnel, tu vois, pour essayer de répondre à ta question. Je pense pas qu'il faut avoir des outils avant ou quoi que ce soit, quoi. Il faut juste arriver à se dire que le beatbox, c'est un moyen de faire de la musique sans instrument et sans électricité. Et ça, déjà, c'est super pratique, quoi. Et donc, moi, ça a été mes premières envies. Et puis après, le fait de le transmettre sur scène et d'avoir des sensations avec le public et tout, c'est un truc de ouf, quoi. Donc là, je me suis dit, mais je vais continuer, quoi. Et après, le fait de transmettre et de faire des dossiers pédagogiques et d'arriver, en fait, à faire des stages et tout ça, j'ai dit, mais génial, quoi. Parce qu'après, il y a une continuité pour les gens qui veulent continuer à faire ça, quoi, tu vois. Donc moi, je passe le bébé, en fait, entre les mains des gens. Et après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent, quoi. Et c'est pour ça que ça appartient plus au hip-hop ou à quoi que ce soit, quoi. Moi, le dernier stage que j'ai fait, j'avais une nana qui avait 50 piges, quoi, tu vois, qui venait pas du tout de ce culture-là, qui était tellement intriguée. Sa seule référence était Bobby McFerry. Je dis, mais c'est génial, quoi, c'est trop bien, quoi. Et tout ça t'amène vers une universalité ou quelque chose de plus global, quoi, pas essayer de se renfermer dans un style ou quoi, tu vois. Donc voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais.
Si, c'est pas mal.
Ça va?
Jungle Babou, et donc des stages. Alors. On va les décrire un petit peu, t'es pas obligé de tout dévoiler, mais comment on fait une journée, voilà, cette demi-journée, ces deux demi-journées, pour adultes par exemple, voilà, comment ça se présente un atelier un peu ?
Alors on va commencer par l'objectif des stages. L'objectif des stages, c'est de pouvoir découvrir en fait les principes du Human Beatbox et de son histoire. Il y a des échauffements, exercices de jeu et de techniques permettant l'apprentissage progressif du beatbox, l'initiation à la loop station, le travail individuel aussi peut amener à un travail collectif suite aux restitutions d'ateliers.
Donc, du coup, tout le monde bosse un peu dans ses coins ou tu fais, si tu as par exemple 5-10 personnes.
Alors, ça va se passer autour de 10 jeux à peu près.
Ouais.
Donc je développe 10 jeux, donc du coup que j'ai développé en fait avec les autres beatboxers. Il y en a même un que j'ai inventé qui s'appelle la marche du beatboxer. Et donc du coup on commence par des petits échauffements, donc petite posture de yoga, respiration, grave. Avant même de commencer les rythmiques et les techniques de beatbox, on essaye déjà de s'approprier son corps et de comprendre en fait les respirations, le débit, le souffle. Prendre possession en fait de son appareil phonatoire, ça c'est la base de la base, quoi. Et après du coup on va adapter les jeux selon les niveaux des personnes, parce qu'il y a des gens des fois qui sont arythmés complètement, quoi. Donc c'est là où j'intègre la body percussion, parce que la body percussion c'est vachement intéressant, parce que en fait t'accompagnes le son par le geste. Donc tu fais une marche et puis dans cette marche-là, tu vas intégrer en fait des petites percussions sur ton torse et tu vas te présenter. Donc tu utilises la main, les pieds, la voix. Donc déjà la désynchronisation. Donc ça c'est la première base, avant même de commencer, mettre les gens à l'aise. Parce qu'au début je commençais avec une grosse démo, les gens ils disaient mais non mais je peux pas faire ça, quoi. Après j'ai fait non,
tu leur mettais plein la vue.
Ouais parce que... Légitimité, on en revient à ça, tu vois. Mais c'est nul en fait, parce que le fait de montrer ça, ça fait juste Ça démotive les participants, quoi. Et donc après, on continue progressivement vers des jeux ludiques. Donc après, il y a le bâton rompu, par exemple. Je peux citer quelques jeux, je ne vais pas tous les citer, mais il y a le bâton rompu, en fait, où c'est un jeu qui consiste à travailler sur la psychomotricité avec des bâtons, où tu te balances des bâtons comme ça, de gauche à droite, et tu travailles, en fait, le sens du rythme. Et tu travailles avec l'autre aussi. C'est vachement intéressant. Et après, au fur et à mesure des jeux, on arrive donc à l'inventaire des sons du beatbox. Donc l'inventaire des sons, on en parlait tout à l'heure, la partition rythmique, système de notation symbolisé, grille rythmique en onomatopée et tout ça, quoi. Et donc dans l'inventaire des sons, tu poses les bases. Donc la grosse caisse, la caisse claire, le charlet. Et pour ça, il y a deux petits exercices comme le petit K, par exemple. Donc, le petit K, c'est très simple. C'est qu'on va imaginer un petit K. Donc, ça fait petit K, ti, petit K, ti, petit K, ti, petit K. Et après, on va effacer, en fait, tout ce qui est après les onomatopées. Donc, I, A, I, E. On va les effacer et on va reprendre juste les onomatopées. Ça, c'est la base. Et à partir de là, on va voir les niveaux, on va voir la synergie entre les individus. Et après, selon les niveaux, toi, je te donne un exercice un peu plus dur, toi, je t'en donne un peu plus facile. Et une fois qu'on a chopé tous ces éléments-là, après, on va faire une chorale de beatbox. Donc, le chorale de beatbox, c'est qu'on va séparer le public en trois. Donc, première équipe, ça va être la rythmique. Deuxième équipe, ça va être la mélodie. Troisième équipe, ça va être l'élément soliste. Et après, on va faire des pupilles tournantes. Donc, ça veut dire que la première équipe va donner la rythmique à la deuxième, qui va donner à la troisième. Et après, on va proposer aux participants de faire un élément soliste qui vienne au milieu, qui prenne ma place aussi, du chef d'orchestre. Et donc, travailler aussi sur l'autonomie, en fait, des participants. Et donc, tout ça, en fait, au fur et à mesure, ça crée une synergie, ça crée... une unité de groupe qui fait qu'on se donne vachement plus confiance à l'autre, quoi. Et les gens qui osaient pas le faire, du coup, comme ils sont complètement immergés dans une troupe, on va dire, c'est vraiment ça, c'est une troupe, quoi. Et à la fin, ils se font confiance, quoi, tu vois. Donc, ah putain, j'ai pas entendu, ah ouais, d'accord, ah, on reprend là, ah ouais, c'est machin. Et c'est pas grave si on se trompe, quoi. Et on avance dans une confiance collective, et au fur et à mesure que la confiance collective, on brise la glace. Et une fois qu'on a brisé la glace, après, on part sur des grosses sessions d'improvisation. Et là, il y a des trucs, des fois, magnifiques qui se passent, quoi, tu vois. Et après, on en revient aux techniques, et puis après, ça s'affine, et puis après, je donne des partitions rythmiques pour les gens qui sont intéressés de le faire. Parce que moi, mon but, en fait, de ce stage-là, c'est de rendre les gens autonomes. C'est qu'ils puissent travailler à la maison, de manière tout seul, etc.
Complètement, avec aucune notion, il faudrait faire combien de stages, à peu près? Enfin, tout dépend, en fait, des gens, c'est ça.
Déjà, avec le stage que je propose, donc 3 heures le samedi, 3 heures le dimanche, ça fait 6 heures. Tu arrives avec des grosses bases de beatbox. Et après, moi, je donne des références, genre des tutos sur Internet, des partitions que j'écris moi-même. Et après, c'est toujours pareil, c'est l'envie, en fait. C'est comme quelqu'un qui fait un cours de guitare une fois par semaine et qui va répéter qu'une seule fois dans toute la semaine et qui revient et qui dit « Ah ben non, mais je comprends pas pourquoi j'avance pas », tu vois. Donc, on en revient toujours à la motivation, en fait. Mmh. Et après, moi, je leur donne ça dans les mains. Et ils en font ce qu'ils veulent. Mais déjà, avec ça...
Mais tu seras plus le prof après, quoi.
Mais c'est le but, hein. Vraiment, ouais. Hein. C'est pas qu'on...
En fait, tu vas faire des stages pendant 2 ans, puis après, ça sera fini.
Mais c'est... Non, après, on va créer un projet avec les gens. Tu vois.
D'accord.
Et ça peut être génial, parce qu'après, on peut faire même des stages ensemble. En fait, il n'y a pas de compétition ou de « tu voles ma place » ou quoi que ce soit. Ou... Non. Moi, le but, c'est vraiment de donner une couleur musicale de beatbox dans le diwa, quoi. Et d'ailleurs, il y a une autre personne qui donne des stages de beatbox que tu connais peut-être.
Ellie.
Voilà. Mmh. Ellie.
Donc ça, c'est au phare.
Exactement.
Un spectacle.
Ouais, donc aux auditeurs, j'invite aussi à voir sa pédagogie parce qu'elle est vachement intéressante. C'est pas un beatboxer à part entière, il a pas des techniques de fou, mais par contre, il a un dossier, il a un outil pédagogique qui est super intéressant, quoi.
Et puis lui, il sort du conservatoire.
Ouais,
crois.
Exactement. Lui, il rigole pas. Non, mais c'est super accessible. Moi, j'ai participé à un atelier avec lui, c'est vraiment génial, quoi. Et donc, du coup, voilà, pour te dire, en fait, qu'il y a pas de, on n'est pas là à se marcher les uns sur les autres, quoi, tu vois. Mmh. Lui, il donne ses stages à dire, moi, je donne mes stages, mais ça n'a rien à voir, tu vois. Mmh. Et les gens qui seront derrière et qui vont dire, genre, dans 2 ans, Jungle Babou, maintenant, je vais pouvoir faire un stage à sa place et tout, c'est avec plaisir, quoi, tu vois.
Parce qu'on va peut-être que tu iras au stage.
Exactement. Mais bien sûr, et je vais payer pour y aller même.
Bon, allez, alors combien ça coûte tes stages?
Alors, les stages, donc, c'est 50 euros le week-end. Donc, 6 heures de beatbox, 50 euros. Ça, c'est pour
les adultes.
Les adultes à partir de 12 ans. Et après, pour les enfants à partir de 7 ans, c'est 20 euros. Donc, le samedi, il y a 2 heures en fait. Il y a 1 heure le samedi et 1 heure le dimanche. Le samedi, c'est de 11 heures à midi. Et le dimanche, c'est de, pareil, 11 heures à midi. Voilà.
C'est à Luc, rappelle-nous la date.
Alors, la date, c'est le 27 et 28 octobre. Il y avait un premier stage déjà qui était prévu normalement le 20 et 21, mais pour l'instant, j'ai aucun inscrit. Donc, je pense que je vais annuler ce stage-là et qu'on va se concentrer sur le deuxième. Donc,
alors, dépêchez-vous de vous inscrire. Oh.
Voilà. Il y a des affiches un peu partout dans le Diwa.
Ouais. On s'inscrit comment, par exemple, là, pour les auditrices auditeurs? Il y a un numéro de téléphone?
Ouais, il y a un numéro de téléphone, c'est le 06 26 98 74 42. Et il y a un event sur Facebook, sur la page Jungle Babou aussi, où il y a tout le descriptif du stage. Il y a des affiches un peu partout dans le Diwa. Et puis il y a une boîte mail aussi. Donc, joairline, joairline, @gmail.com.
Eh ben, on va terminer en musique Jungle Babou. Merci pour ton passage. Inscrivez-vous donc même pour la première session de stage, comme ça elle sera pas annulée.
Ah, c'est cool.
Bah ouais, quand même. Et donc bah tu reviens quand tu veux et présente-nous ce dernier morceau.
Alors le deuxième morceau est un petit peu plus contemplatif, méditatif. Il y a de la bonne basse aussi, t'inquiète. Mais
non, mais je n'aime pas que ça.
Ouais, ça va. Voilà, mais c'est toujours pareil, j'ai pas trouvé de nom à ce morceau, mais on s'en fout en fait, pourvu que ça sonne bien et que ça nous fasse du bien aux oreilles. C'est un morceau qui est plus planant, voilà.
Merci.